bobs a lot, and she bobs a lot. She shakes and she stores, she's a queen of the hop. Oh, well, I love her so much, I'd swim with the sea. I'd flip my letter, she'd ever, ever leave me. When I walk her home from the school at night, we stop for soda and I wanna hold her tight. So a cat feeds a jukebox and we hold on tight. Then we rock and roll in into the night. Oh, well, she bobs a lot. Oh, she bobs, she bobs a lot. Oh, she bobs, she bobs a lot. She bobs, she bobs a lot. She bobs a lot, she bobs a lot.
Et salut, salut les manches-disques. Et ouais, c'est la rentrée, on est là avec nos cartables pleins de vinyle pour la grande rentrée du manche-disque sur Radio G. Voilà, la grande rentrée, on va dire, avec, après nos premières vacances hein, quand
ouais,
même.
Hein. Ouais, 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 on a fait nos devoirs, on a nos petites notes.
Voilà, complètement. Et ouais, puis surtout, on n'a pas oublié les fournitures.
Ah non. Non, on n'a pas oublié les fournitures
c'est
du tout.
C'est ça. Et puis ben voilà, on est masqué, on a les doigts désinfectés, enfin bref, hein, tout pour faire une bonne émission.
En respectant les gestes barrières.
Voilà, on a le plaisir de recroiser King Oliver d'Intoxica qui nous a bien annoncé tout à l'heure. Ça fait plaisir aussi de se revoir, même si on se voit qu'à moitié, on se voit que les yeux. Et donc on va démarrer avec un petit morceau qui va nous mettre, je pense, dans de bonnes dispositions pour cette reprise, mon cher Julien.
On parle souvent du fait que septembre, c'est la rentrée sociale, etc. Donc ouais. Je pense que ces thématiques, c'est bien choisi.
Ah bah écoute, voilà, on va avoir un petit discours introductif, on en parlera tout à l'heure. Allez, c'est parti, salut à tous pour cette 23e, si j'ai bien compté, émission du Manche Disque.
Saison 2.
I want to see your hands up there. Let me see your hands. I want everybody to kick up some noise. I want to hear some revolution out there, brother. I want to hear a little revolution. Brothers and sisters, the time has come for each and every one of you to decide whether you are going to be the problem or whether you are going to be the solution.
That's right.
You must choose, brothers. You must choose. It takes 5 seconds. 5 seconds of decision. 5 seconds to realize your purpose here on the planet. It takes 5 seconds to realize that it's time to move. It's time to get down with it. Brothers, it's time to testify, and I want to know, are you ready to
Et oui, vous les aurez sûrement reconnus, les MC5, pour Motor City 5. C'était l'album Kick Out the Jam de 1969. Voilà, donc MC5, le groupe qui a inspiré, en tout cas, qui est présenté le plus souvent comme un petit peu les précurseurs de tous les mouvements punk, hard rock qui ont suivi après. En fait, c'était peut-être les premiers à faire des performances scéniques bien vénère, avec des revendications sur un mode pas super hippie, quoi. Donc voilà, c'était les débuts du rock bien vénère, 1969. Donc ce Kick Out the Jam des MC5, un album emblématique que j'ai chopé il y a pas très très longtemps. Ça, c'est pour la petite histoire, mais on est aussi là pour parler de vinyle, pour parler de collection. Donc moi, je l'ai chopé il y a pas très longtemps chez un disquaire bordelais, Diabolomante, s'il se reconnaît, s'il nous écoute depuis Bordeaux, eh bien salut, Diabolomante et tes disques fantastiques. Et celui-ci, c'était un disque avec la pochette complètement détruite par les eaux, mais un disque tout à fait.
Vous imaginez pire.
Si tu sors le truc, Julien, tu vas voir que c'est bien gondolé, et le gatefold
est
bien.
C'est de la bière, c'est peut-être pas de l'eau.
Peut-être que c'était de la bière ou de la vodka, je sais pas. En tout cas, l'intérieur est complètement pourri, et c'est dommage parce que figure-toi que c'est une version avec pochette collector, puisque c'est une pochette non censurée avec une retranscription un petit peu du discours du début qu'on a entendu avant ce morceau, que j'ai même pas annoncé d'ailleurs, Rambling Rose. Et un morceau donc qui se terminait par Brothers and Sisters dans les versions censurées, mais plutôt Motherfuckers dans les versions non censurées. Cette version là est non censurée, donc ça lui donne un peu de valeur, sauf que moi mon gatefold, il y a plus de texte dessus tellement c'est arraché de partout. Donc voilà, mais avant tout, moi je suis comme ça, avant tout la musique. Avant, et quand j'ai vu ce petit disque, ce disque incroyable à 7 petits euros, j'ai dit écoute, banco, tant pis, je ferai le deuil de la pochette. Voilà.
Et t'as bien fait, parce qu'effectivement MC5 contemporain et colloque presque des Stooges sur Détroit, Michigan et tout, c'est indispensable.
Un petit morceau d'histoire, comme on dit.
Exactement.
Ouais.
Je vous en propose un autre morceau d'histoire, peut-être un peu moins connu, puisqu'il s'agit d'écouter un groupe assez particulier. Je ne sais pas si tu sais, mais il y a beaucoup de groupes de tout ce qui est grind, death grind, hardcore, deathcore, etc. Il y a une scène assez militante, militante pour les droits des animaux, notamment sur tout ce qui est végétarisme, voire véganisme. Et là, je vous propose quelque chose, mais alors, je pense que jamais ça n'a été entendu.
Il y a les MC5 là qui.
Oui,
qui
ils arrivent.
Dégagent,
on a peut-être dit une petite connerie, une erreur, un truc comme ça. Ils viennent nous rectifier.
Peut-être.
Donc, je reviens sur ce que je disais. Donc, je vous propose quelque chose qui n'a jamais dû passer sur Radio G, à mon avis, puisque je vous propose du Death Grind canin, mesdames et messieurs.
Canin comme les chiens. Quoi.
Comme les chiens, avec le groupe qui s'appelle Caninus. Alors, qu'est-ce que c'est que Caninus, vous allez me dire ?
Oui, il y a canin dedans, moi, voilà. C'est en latin. Voilà.
Exactement. Donc, en fait, c'est un groupe de Death Grind qui a été formé en side project par le guitariste de Most Precious Blood, Justin Brannan, avec également Rachel Rosen, à la batterie, il y a Colin Thunder Curry, et surtout, Budgie et Basil. Alors, Budgie et Basil, ce sont deux femelles pitbull terriers qui appartenaient, à mon avis, au guitariste, et qui chantent sur cet album, en fait. Hein. Donc, ils ont fait un album en 2004 qui s'appelle Now the Animals Have a Voice. Et ils ont fait également quelques petites productions type single, et ils ont fait un split en 2005 avec 8 Beak, qui est chanté par un perroquet. Non, mais tout ça, c'est vrai. Hein. Allez
tout
voir,
ça, c'est vrai, ok. Donc là, tu es en train de nous expliquer qu'on va s'écouter un morceau avec des chiens qui chantent.
Voilà, exactement. Donc je vous propose, en fait, c'est un très bel objet, hein, parce que c'est une réédition. Le CD était devenu introuvable. Format 45 tours, sauf que c'est un 33. Les morceaux sont très courts, hein, parce que les chiens, ça se concentre pas trop longtemps. Et il y a un côté avec Basil et un côté avec Budgie.
Ok, chacun sa face.
Voilà, chacun sa face. Malheureusement, aujourd'hui, ils sont décédés, les petits pères, les petites mères.
Ça,
mais
c'est
bon.
Trop triste.
Voilà, donc.
Ouais, c'est en même temps, c'est des vrais rockers, les chiens. Ils ont des
modes de vie.
Ils ont des modes de vie sans concession et des durées de vie un peu écourtées, un peu comme le club des 27, un équivalent chien.
Chien,
c'est un peu ça, quoi.
C'est le club des 3-4, peut-être, je sais pas, multiplié par 7. Donc là, c'est le côté de Budgie que je vous propose avec un morceau qui s'appelle Human Rawhide.
Ah, écoute, on s'écoute ça alors.
Allez, wouf.
Eh ben effectivement, c'était ouais. bien vénère, c'était bien, vénère. Bien canin.
Ouais, exactement.
Voilà.
Go
c'est
vegan.
Un morceau qui a du chien.
Go vegan, exactement. Un morceau qui a du chien.
Go vegan.
Ouais, c'est écrit derrière.
Ah, ok, putain, voilà. les rockers animalistes jusqu'au bout quoi.
Ben exactement.
Bon ben moi je vais tomber dans quelque chose d'un peu plus classique hein, parce que cette escalade vers le rock.
tu suis pas là.
Là je peux plus suivre là. Là t'as mis la barre trop haut, donc on va revenir sur des valeurs un petit peu plus conventionnelles avec un petit hommage parce que l'actualité récente a été marquée par la disparition d'un grand morceau d'un grand monsieur qui a fait plusieurs morceaux de funk et d'un groupe mondialement connu qui est Kool & The Gang. D'accord. Donc Kool & The Gang pleure aujourd'hui pas aujourd'hui hein, mais très récemment là, je crois que c'était ce week-end la mort du fameux Ronald Bell hein, qui est un des deux frères Bell, le deuxième étant Robert Cool Bell de Cool and the Gang, d'accord, le bassiste, mais c'est au contraire c'est Ronald hein, qui est décédé, donc lui c'était plus de saxophoniste, flûte, voilà, et quelques voix aussi. Voilà, Cool and the Gang, beaucoup les connaissent pour leur période disco, qui ne gâche rien, hein, qui anime bien les mariages et toutes les fêtes entre amis, hein, Celebration notamment, etc. Mais Cool and the Gang, ce que peut-être nos auditeurs tous nos auditeurs ne savent pas, c'est que c'est aussi, avant de prendre ce virage disco, un excellent groupe de funk. Beaucoup plus puriste en fait hein, que ce qu'ils ont fait ensuite, qui peut s'apparenter quand même à de la soupe un peu disco, mais ils ont eu toute une période pendant les années 70 où ils faisaient vraiment du funk vraiment de très très bonne qualité. Ils ont été même salués par James Brown, qui est quand même le père du funk, en disant que c'était vraiment James Brown a même dit après moi et les JB's, Kool & The Gang c'est vraiment ce qui te fait mieux hein, pendant les années 70. Donc pour vous illustrer ça, ben je vous ai ramené un vinyle de ma collection qui s'appelle Music is the Message. Music is the Message, un album de 1972, hein, c'est leur deuxième album studio, hein, donc c'est tout neuf. C'est avant qu'ils recrutent le chanteur avec la voix bien disco, bien marquée de Kool & The Gang. Donc vous allez voir que c'est les musiciens de Kool & The Gang qui font des voix comme ils peuvent, mais en même temps c'est pas des morceaux hyper chantés. Ce disque-là, il s'appelle Music is the Message. C'est paru chez le fameux label Delight Records, hein, à l'époque, grand label funk des années 70 aux États-Unis. Et le morceau s'appelle, comme l'album, Music is the Message. Donc écoutons ensemble, si vous voulez bien, le message et un hommage à Ronald Bell, voilà, qui s'en est allé. Allez.
Non, c'est l'autre. Ruff.
Ashraf Sharif Khan et Victor Marek, alias les Sufi Dub Brothers. Il s'agit de la rencontre entre Ashraf Sharif Khan et Victor Marek, donc je viens de vous le dire, un expert en sitar et un DJ indien d'origine allemande, je crois. En tout cas, c'est un groupe qui a enregistré en Allemagne. Et ils se sont associés tous les deux pour produire cet album. Ça fait une dizaine d'années qu'ils travaillent ensemble, donc je ne sais pas du tout combien c'est leur album, mais c'est leur album qui est sorti le mois dernier, qui s'intitule Sufi Dub Brothers. Et on a écouté Cell Song, et j'aime beaucoup ce mélange entre la sitar et l'électro.
Ouais, ça a tout posé l'ambiance là après Cool and the Gang. Là, ça nous a bien relaxé au son du sitar indien.
Exactement.
Et avec les petits sons d'électro, moi, ça m'a fait penser, je te le disais hors antenne, à ce que fait Freeze the Robots, notamment un vinyle là que j'ai ramené d'ailleurs. Donc, si on a le temps tout à l'heure, je vous en passerai un petit extrait, sans excès. Et ouais, c'est tous ces métissages un peu électro, musique traditionnelle, qui sont sympas.
Et la musique indienne se prête plutôt pas mal. Sur tout ce qui est électro lounge, tout ça, il y a eu toute l'heure de gloire du Bouddha Bar là qui sortait des productions peu de ce type.
Ouais, et puis même avant ça, il y a quand même tout le rock psychédélique des Anglais de l'époque qui avaient
leur gourou et compagnie.
Avec George Harrison par exemple qui nous a enchanté avec son sitar. Il y a certains morceaux des Stones aussi où Brian Jones c'était un peu son truc aussi. Et puis plus tard le Brian Johnson Massacre aussi. À l'époque faire du rock psychédélique sans guitare. C'était un peu sans sitar, c'était un peu compliqué, et sans guitare encore plus.
Et là, c'est sorti le mois dernier. C'est le label Fun in the Church.
Yes, ok. Eh ben, écoute, moi, je vais. C'est pas que j'aime pas ce que tu mets, mais moi, je vais insister dans le funk. Hein. Je vais insister dans
possible.
Le funk parce que là, tu vois, on s'en est écarté un petit peu avec.
T'as abandonné la nourriture pour le funk. Je crois.
Ah, c'est ça. Giving up food for funk. Ceux qui ont la référence, bravo à vous.
Voilà.
Donc un funk un peu plus récent que Cool and the Gang, puisque je vais vous parler, en plus là on est vraiment dans le disque vinyle, dans la rentrée du manche disque, puisque je vais vous parler d'un disque qui, ça va même faire une petite chronique, un disque emblématique de tout, de toute l'histoire du disque vinyle. Il s'agit du Black Album de Prince. Black Album, un album vraiment très très particulier dans toute la discographie de Prince, et Dieu sait qu'il y a eu des disques, mais celui-ci il est marqué par une sorte de légende dans son histoire, puisque il a été fait juste après Sign of the Times, en 1987. Il a été composé dans une période très compliquée pour Prince au niveau vie perso. Donc il a été inspiré par des expériences un petit peu difficiles, une rupture amoureuse, etc. Enfin beaucoup de choses qui l'ont troublé, et donc il a écrit un album dans cette atmosphère un peu sombre, et un album qui voulait un petit peu casser avec le virage un peu pop qu'attendait sa maison de disques et le public d'ailleurs. Et donc il a composé un album qui était peut-être un petit peu plus proche de ses racines funky, justement un peu plus puriste dans l'âme, mais à la fois avec des paroles très sombres, assez agressives, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au moment de sortir cet album, il a fait tout de suite machine arrière. Il a rappelé tous les albums qui étaient destinés à la vente, je crois la veille pour le lendemain pratiquement. Et il a retiré tous les disques parce que, alors on ne sait pas trop pourquoi, les plus rationnels disent que c'est parce que lui et sa maison de disques, ils se sont aperçus que là, ils allaient dans le mur et que ça allait peut-être gâcher toute une série de concerts qui étaient prévus et le prochain album à paraître, etc. Et puis il y a une légende autour de laquelle Prince, sous produit stupéfiant, aurait eu une révélation comme quoi cet album serait maudit, en tout cas voilà, lui qui était très croyant, on le sait, et donc il aurait eu une hallucination avec écrit God, et donc il aurait décidé que sortir cet album allait lui attirer les défaveurs du tout puissant. Donc il les a rappelés. Alors ce que ça a fait très concrètement pour la collection des vinyles, la conséquence c'est que c'est un album dont les originaux à l'époque, donc ceux qui ont été rappelés, ceux qui n'ont pas été vendus, donc ça veut dire que ceux qui les ont vendus sous le manteau, c'était des employés des maisons de distribution de disques, etc. Donc ils ont été vendus à quelques très très rares exemplaires, et donc ceux qui sont aujourd'hui heureux possesseurs de ces exemplaires là ont une petite fortune dans leur discothèque, puisque je crois que c'est un Black Album qui détient le record de vente en termes de montant sur Discogs, qui est le site quand même de la vente
de référence des collectionneurs,
voilà. Et je sais pas combien il y a de 0 après le 3, mais c'est $30,000 ou $300,000, je sais pas. J'avoue que moi, au-dessus d'un certain montant, je fais plus trop gaffe, même si voilà, c'est la différence est grande. Mais enfin, c'est pour vous dire que c'est une petite fortune et que c'est du n'importe quoi, de toute façon, des disques à ce niveau-là.
Ah, mais si vous le voyez en vide-grenier, n'hésitez pas, même s'il est à 10 euros. Hein.
Voilà. Mais moi, clairement, je le trouve en vide-grenier, je le revends dans la semaine. Parce que $30,000 pour un disque, franchement, voilà. Moi, la preuve, je vais vous passer un morceau de ce Black Album. Non pas que je sois aussi fortuné, ni aussi chanceux, mais simplement j'ai acheté un bootleg parce que ce que ça a fait, c'est que c'est aussi le disque le plus copié, le plus contrefait du monde, puisque bah, vous vous imaginez bien que tout le monde n'a pas envie de mettre, et j'en fais partie, envie de mettre ce montant-là dans un disque. Donc y a eu pas mal de bootlegs hein, qui ont circulé, qui circulent encore. C'est un petit peu plus compliqué à trouver parce que aujourd'hui, la vente illégale de disques pirates est très réglementée, donc c'est un peu, même sur Discogs, ils ont plus le droit d'en vendre.
Bloqué, ouais,
donc c'est un peu compliqué, mais quand on a un filon, on peut en choper quand même pour des montants un peu chers certes, mais qui n'ont plus rien à voir avec les montants que je vous ai annoncés tout à l'heure. Donc on est sur du 50€, 80, 100€ peut-être, pour les plus rares. Quoi vous dire de plus,
Il existe en CD ou c'est que du...
Alors il existe en CD,
CD.
D'ailleurs Warner, il y a une version officielle un peu moins chère d'ailleurs que celle dont je vous ai parlé, parce que Warner en 94 a fini par sortir une version officielle du Black Album.
D'accord.
Devant l'engouement que ça crée.
Et avec l'accord de Prince ou...
En 94, j'imagine que... 94, attends que je remette. Si, je crois que Prince, si je dis pas de bêtises, est toujours sous contrat. Si.
Ah, si, ouais.
Je crois qu'il est toujours sous contrat, donc je pense que c'est forcément avec son accord. Mais enfin, ça après, the rest is history. Toujours est-il que y a une version 94 qui commence aussi à chiffrer. Hein, on est quand même sur du 200-300 balles.
Ah oui, quand même.
Ouais. Donc, et donc, je vais vous passer un morceau qui va vous illustrer, surtout musicalement, parce qu'après tout ce blabla autour de l'objet, la musique c'est aussi important, et ça va vous illustrer musicalement ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les racines funky de ce disque. Moi je personnellement j'apprécie beaucoup. Donc on va s'écouter un morceau qui s'appelle Cindy C.
See you. Will you? rock and solos to go.
Et voilà, c'était donc Cindy C, The Prince, voilà, un morceau qui court pas les rues quand même.
Exactement, hein, voilà. J'espère que vous en avez profité.
Ouais, profitez-en, sinon ben, courez à la course au vide-grenier, à l'original, et si vous renoncez, ben, cherchez-vous comme moi un bootleg, ça voilà. Fait très bien le taf, et on s'éclate bien avec, voilà. Et maintenant, ouais, on va remuer un couteau dans une sacrée plaie là.
Oui, effectivement, vous avez peut-être appris récemment, comme nous, l'annulation de l'Évitation.
Trop pas bien.
Ouais, donc on était très très triste. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Alors on leur
et merci
souhaite,
d'ailleurs à l'antenne, hein, merci aux organisateurs pour tous les efforts, parce que franchement,
ils ont fait vraiment ce qu'ils pouvaient.
Je pense qu'ils ont tout fait, parce qu'on y a cru pendant très très longtemps. Ouais. Pendant très très longtemps, ça n'a pas été annulé, donc ça veut dire que les mecs, en attendant, ils n'ont pas baissé les bras trop vite et ils ont tout donné. Quoi.
Malheureusement, ils ne sont pas potes avec notre président comme l'était De Villiers, qui a pu longtemps continuer le Puy du Fou.
Et voilà,
bien malheureux. Mais on préfère l'Évitation.
Si seulement on était passionné de combat de chevaliers et de
discours réac un peu.
Ouais. Ah oui.
Donc bon, voilà, merci aux organisateurs de l'Évitation. Rendez-vous l'année prochaine. Pitié, continuez. On a besoin de vous, on a besoin des groupes que vous nous faites découvrir.
Oui.
On a besoin de manger des kebabs vegan entre deux concerts hallucinants.
De boire beaucoup de bière aussi.
De boire beaucoup de bière, voilà. Et tout ça dans un site.
Mais avec modération quand même. Beaucoup,
oui,
mais avec modération.
Voilà, exactement. Ouais, exactement. Ouais. Et dans un site génial qui est le Théâtre du Quai. Donc voilà. Alors, histoire de rester un petit peu quand même dans l'évitation, il suffit de fermer les yeux et de s'imaginer hein, dans le grand hall. Mm-hmm. Je vous propose un morceau de Slift. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est Slift, encore une fois? Eh bien, c'est un groupe toulousain, en plus Cocorico.
Yes.
Édité par Vicious Circle, le même label que les Psychotic Monks, qui était déjà passé l'année dernière. Mm-hmm. Ouais, je crois.
Oui, c'est carrément, ça. Carrément, je me rappelle d'eux, ouais.
Il s'agit de leur deuxième album à Slift, de ce groupe de space garage rock toulousain. Donc, il s'appelle Amon. C'est un double LP avec assez peu de morceaux, hein, parce qu'on est vraiment dans les morceaux à rallonge, bien psyché, etc. Superbement illustré par Kaza, grand illustrateur qu'on ne présente plus, aussi bien de bouquins, de romans, de jeux de rôle, de disques, de métal hurlant et compagnie. Je vous referai pas.
C'est vrai qu'elle est belle cette pochette. C'est quoi, c'est des titans, non? On dirait,
oui,
un peu ça.
Effectivement, a priori, l'histoire, il faut s'intéresser aux paroles. Alors, tous les morceaux sont pas chantés, mais ouais. L'histoire, c'est des titans qui traversent la galaxie pour chercher leur maître ou leur créateur ou ce genre de choses. Ouais. Donc, vous en doutez, on est dans le space rock complètement délirant, mais ça fait du bien. Et je vous propose donc d'écouter le morceau. Alors attendez, je ne sais plus comment il s'appelle.
Vas-y, trouve-nous ça.
Je ne sais plus. Je ne sais. It's coming.
It's coming. Ah ben justement, voilà, cette circonstance. It's coming.
Yeah.
pas les morceaux, nous. On n'est pas comme ça.
Jusqu'à la dernière goutte de ce voyage.
À Toulouse de l'espace.
À Toulouse intergalactique. Non, c'est vraiment pas mal, effectivement.
Ouais,
c'est vraiment pas mal. Ils commencent à faire parler d'eux, même au-delà de nos frontières. Hein.
Oh oui, oui, je crois qu'ils commencent à avoir une sérieuse cote.
Ouais, bah c'est très bien. C'est très bien, comme tu disais tout à l'heure, Cocorico, et puis d'autant plus pour de la musique comme ça. Parce que bon, des fois, il y a des Cocorico, on s'en passerait bien.
Oui, mais là, là c'est très très bien.
Et bah, espérons que c'est quand même vachement dommage, un groupe comme ça, avec cette musique-là, de ne pas les avoir vus sur scène, comme on disait tout à l'heure. Donc espérons qu'ils fassent partie peut-être de la... Que ce soit que partie remise et que...
Ouais, la séance de rattrapage.
Et qu'ils signent aussi pour l'année prochaine.
Déjà. Et puis sinon, à la reprise des concerts, surveillez-les. Peut-être que c'est un groupe qui aura l'occasion de passer, je ne sais pas, à Nantes ou dans notre bonne vieille ville d'Angers, Chabada ou quelque chose.
Oui, bon, on disait que, comme tu disais, ils ont le vent un petit peu en poupe, donc on risque de les voir... Enfin, tourner en tout cas.
Guettez-les.
Voilà, quand ce sera possible, bien sûr. Après, ça peut être, je sais pas, bon, après, je suis pas programmateur, mais ça peut être le genre de musique un peu où tu peux être aussi assis, tu vois, tu peux inventer des trucs un peu plus statiques pour le public, tu n'as pas besoin de pogoter là-dessus, tu peux partir loin.
Tu veux dire assis dans l'herbe avec vue sur le château.
Par exemple. Et avec de je sais pas, moi, si tu dois t'aider un peu de boisson, pourquoi pas.
Avec modération.
Avec modération.
Encore
toujours.
Elle.
Bien sûr, toujours. Écoute, c'est bientôt l'heure de se quitter, hein, parce que je vois qu'il nous reste plus que quelques minutes. Donc, c'était une rentrée qui s'est passée assez rapidement, toujours trop rapidement d'ailleurs.
Oui.
Hein, on est toujours un petit peu surpris par l'heure. On se laisse embarquer avec les morceaux qu'on propose. Et ben, moi, je te propose de conclure l'émission avec un morceau de ma collection. Alors, j'ai été très axé dans mes choix là, à part MC5 au début, j'étais axé funk. C'est peut-être de fréquenter les gars de Funkadelica,
ouais, c'est possible.
Qui aussi sévissent sur la radio.
C'est ce qu'on appelle le Co-Funk 19.
C'est ça, le Co-Funk 19. Donc c'est un mardi sur deux, les semaines où on bosse pas, nous.
Ouais.
Des fois j'ai le plaisir d'être invité dans leur émission. Donc un mardi sur deux, 19h-20h. Un petit coucou aux gars de Fonca s'ils nous écoutent. Là je vais partir sur autre chose. Je vais partir sur de la pop.
Très bien.
Et tu sais que j'aime bien, les noms, tu sais, pour décrire les musiques, parce que je trouve que on regorge d'inventivité. Et là j'ai vu que pour qualifier ce groupe dont je vais vous parler tout à l'heure, on parle de Sophistipop.
Ah ouais, d'accord.
C'est pas mal, hein, c'est classe.
C'est de la pop,
hein.
Mais c'est un peu ciselé, c'est un peu...
Ouais, c'est ça, c'est sophistiqué, tu vois.
Ouais.
Et donc ce groupe, c'est Prefab Sprout, un groupe effectivement de pop des années 80, qui, moi, est un groupe que j'apprécie. J'ai un petit truc affectif, j'ai dû les entendre pendant cette période-là. Après, il y a eu des tubes, hein, forcément. Je vous passais d'ailleurs leur plus gros tube tout à l'heure, parce que voilà, l'idée c'est de se faire plaisir aussi. Hein. C'est vrai qu'on essaye toujours de plutôt privilégier les phase B, les morceaux un peu inconnus, mais des fois c'est bien aussi de se mettre un bon truc.
Puis c'est un tube connu, mais d'un groupe, c'est pas Depeche Mode non plus.
C'est un groupe qui a toujours été salué par la critique, toujours, mais qui n'a jamais réussi à créer un succès populaire vraiment tonitruant comme d'autres groupes de pop qu'on connaît beaucoup plus. Prefab Sprout, c'est du qualitatif, c'est effectivement sophistiqué. Cet album, il s'appelle... Il s'appelle From Kingley. Attends, parce que c'est long un peu. J'ai pas envie de l'écorcher. Donc, From Langley Park to Memphis. Voilà, c'est ça. From Langley Park to Memphis. Il est sorti en 1988. C'est leur plus grand succès commercial. Mm-hmm. Parce que, ils débutent avec deux morceaux qui vont devenir des tubes, hein, de Prefab Sprout. Donc, le premier morceau qu'on va s'écouter s'appelle The King of Rock and Roll. Un morceau que les jeunes commencent aussi à apprécier parce qu'il a été utilisé dans une série Netflix qui est passée il y a pas longtemps, qui s'appelle I'm Not Okay With This.
Ouais.
Et donc il y a une scène assez marrante où un des héros chante ça avant un rendez-vous galant en se douchant, voilà. Donc
ce genre de choses, ça peut faire ressortir les groupes
complètement parce que là t'as tous les jeunes là de 15-20 ans qui se mettent à aimer ce morceau et à dire ah, je savais pas que c'était Prefab Sprout, ça. Donc peut-être ça va donner une seconde jeunesse à ce groupe
et une reformation,
voilà. Après bon, c'est sûr que quand tu l'as entendu toi dans les années 80 et que tu vois ces petits jeunes qui commencent à kiffer, ça te rajeunit pas.
Non.
Mais tant mieux qu'il y ait des petits revivals comme ça. Donc on s'écoute ça et puis on se dit au revoir. On se dit à dans 15 jours surtout.
Dans 15 jours, ouais, ça marche.
Avec
même
plaisir,
heure,
parce que 100, c'est reparti.
101.5 Radio G.
Voilà, même heure. On verra comment on sera avec le protocole. Mais en tout cas, tant qu'on nous dit pas de partir, nous, on vient. Voilà. Allez, salut les auditeurs. À plus et on se fait plaisir. Vous pouvez danser chez vous, dans votre lit, tout ça. Prefab Sprout, The King of Rock and Roll.
Bye bye.
From sweet shoes, my baby blues.